À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'association INIS, Italie, Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.
Bonsoir, bonsoir aux auditeurs de Couleur FM sur 97. Bonsoir Laurent. Donc notre émission du mois à l'écoute de l'Italie. Bah, tout d'abord, on va commencer par l'actualité politique en Italie. Alors, vous savez qu'en Italie, il y a le nouveau président du Conseil qui maintenant est installé et depuis un peu plus d'un mois, qui s'appelle Matteo Renzi, qui va de réforme en réforme et qui commence à susciter le regard, l'étonnement, voire peut-être même parfois quelques lignes directrices en Europe, avec les pour, les contre, et dans son propre pays. Et en ce moment, on discute beaucoup de sa suppression du Sénat sous sa forme actuelle. Enfin, c'est un de ses souhaits. Et tout ça se discute d'ailleurs au moment où on parle, et il va sans doute sortir dans les heures ou les jours qui viennent une décision à ce sujet. Alors Matteo Renzi voudrait effectivement, c'était une de ses annonces, que le Sénat, sous sa forme actuelle encore une fois, soit supprimé. Alors il a la probation de la majorité de ses ministres, mais il a aussi quelques hommes ou femmes politiques qui comptent en Italie et qui contestent cette future décision, ou en tous les cas cette proposition. Alors qu'est-ce que leur dit Renzi? Ou nous faisons des réformes, ou annoncer, ou on fera sans moi. Selon lui, il serait insensé qu'une personne comme lui reste au gouvernement si on doit faire des réformes à moitié. Il pense qu'il est là pour faire des réformes, et il n'est pas là simplement pour observer les palais de Rome, dit-il. Même s'il aime ses palais, il veut mener à bien les réformes qu'il a entreprises et qu'il voudrait voir appliquées. Alors, il redit d'ailleurs que si la classe politique dit qu'il ne faut rien changer, c'est pas la peine, encore une fois, qu'il reste. Elle fera son mois et tous seront contents. Il est, on peut dire, qu'il va jusqu'au bout de ses idées, et, enfin, à voir et à vérifier. Alors, quelle est cette réforme? En fait, ce que veut Renzi, qui trouve qu'il y a trop de parlementaires en Italie, il voudrait qu'il y ait une forme de Sénat nouvelle où on siège sans indemnité et où soient présents les maires et les présidents de région, avec comme ligne principale pas de droit au vote de confiance, pas d'émolument donc, pas de possibilité de voter le budget et pas des élections de sénateurs comme elles se font actuellement, car il dit il y en a assez d'avoir le plus grand nombre de parlementaires en Europe et même un nombre de parlementaires supérieur au nombre existant aux USA. En fait, il voudrait que cette chambre ait simplement un rôle de consultation, en fait, de consultant. Alors, la ministre des Réformes, Madame Boschi, est en symbiose complète avec Renzi, et elle précise que lors des primaires du Parti démocrate, Partito Democratico, cette proposition avait été déjà faite et cette ligne avait été approuvée par 70% des membres. Et elle avait ensuite été entérinée par la direction et par le groupe parlementaire. Donc, dit-elle, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout et de faire cette réforme. Autre partisan de poids qui est du côté de Renzi, c'est Walter Veltroni, qui est un des grands personnages de la politique italienne et du Parti démocrate, et qui le dit que certes, les sénateurs, la majorité des sénateurs, dont le président Grasso, voudrait ne pas voir appliquer cette réforme tout au moins tout de suite et sous la forme qu'incite à faire Renzi, mais je crois, dit-il, que nous ne pouvons pas nous permettre de faire des réformes à moitié et que la double chambre doit être maintenant dépassée et que c'est donc pour lui une évidence qu'il faut aller dans le sens de Matteo Renzi. Dans les ministres opposés, dirons-nous, il y a le ministre de l'Éducation, Madame Giannini, qui invite Matteo Renzi, disons, à être surtout moins pressé à réfléchir, car la rapidité est certes sa marque de fabrique, mais peut-être pour lui un danger et pour le pays un danger, dit-elle. Elle aimerait que ce projet soit discuté au Parlement. Elle aurait aimé, on peut dire maintenant, que ce projet soit discuté au Parlement pour l'améliorer ou le retoquer, ou en retoquer tout au moins certains aspects. La présidente de l'Assemblée nationale, Laura Boldrini, elle aussi souligne l'importance d'un débat. Et le principal, enfin celui qui est décrit comme un des principaux opposants, qui est le président du Sénat, Pietro Grasso, qui est plutôt d'ailleurs un type bien, Pietro Grasso qui est président du Sénat depuis les dernières élections et quelqu'un qui est né à Licata, en province d'Agrigento, en Sicile, qui est né en 1945. Il a été procureur de la République auprès du tribunal de Palerme. Il a eu en 84 la charge d'être le principal juge dans le maxi procès de Cosa Nostra, qui est le procès de la mafia, où il y avait plus de 400 accusés présents. C'est quelqu'un qui est donc identifié comme un juge anti-mafia et qui a sous son... Lorsqu'il était procureur de la République sous sa direction, de 2000 à 2004, il y a eu 1779 personnes arrêtées qui auraient composé avec la mafia. C'est quelqu'un donc qui a aussi contribué par son travail après des années d'enquête à la capture de Bernardo Provenzano, qui était un des mafieux les plus connus en Italie. Voilà. Donc cette personne est plutôt quelqu'un de bien. Donc lui, il s'opposerait à cette réforme immédiate, non pas qu'il fasse une opposition systématique et bornée, entre guillemets, mais il dit que supprimer une des deux chambres, en l'occurrence le Sénat, ce serait selon lui un espace de démocratie en moins, et il ne voit pas la possibilité de laisser une seule chambre, disons, à prendre des décisions sans avoir des effets négatifs. Enfin, il argumente, lui, de façon très technique, et il aimerait discuter en fait de tout ça avec Renzi, et il dit que l'ébauche ou la proposition de Renzi s'était déclarée ouverte à toute sinon modification, tout au moins discussion, et il aimerait effectivement que cette discussion existe. Il ne dit ne pas être ni conservateur ni le porte-voix désigné de tous les sénateurs, mais il pense que l'urgence, là aussi, n'est pas de mise. Voilà. Alors, il y a aussi d'autres opposants, notamment Forza Italia, bien sûr. Sur Grillo, c'est un peu différent sur le président, enfin, le responsable des Cinque Stelle. Selon Renzi, cette réforme et d'autres sont officiellement n'obtiennent pas l'accord du mouvement des Cinque Stelle, qui est devenu un parti important, mais ce ne sont que les dirigeants qui ne seraient officiellement pas d'accord, alors qu'ils pensent que beaucoup des adhérents de ce mouvement, voire même des députés, l'encourageraient plutôt, ou tout au moins l'accepteraient. Voilà. Donc, cette réforme étant qu'à suivre, elle va être peut-être votée dans les heures qui viennent. Et on en reparlera peut-être à la prochaine émission. Alors, on va écouter maintenant, on va faire une petite pause musicale. Il y a toujours des pauses musicales, puisque vous êtes quand même sur Couleur FM, 97.1, la radio de la musique aussi, on peut dire, n'est-ce pas, Laurent? Et on va écouter une chanson qui est un peu une chanson d'ailleurs politique, qui est Terra Mia, de Maura Susanna, qui est une chanteuse du Val d'Oste, et qui avait écrit cette chanson après un sommet européen où l'écologie devait être traitée, avait été laissée un peu de côté. Donc, Terra Mia, Madre Mia, ma terre, ma mère, par Maura Susanna.
Quando il sole verrà a riscaldare il tuo viso, nulla potrà più far male. Un giorno cambierà, non morire perché saremo in tanti con te ad aiutare la vita a rinascere in te. Non morire perché. Terra mia, madre mia, nel tuo ventre la poesia, lascia il vento ti asciughi il dolore delle lacrime. No, non pianger più, un bambino verrà. Senza rabbia sarà, gocce d'acqua e spighe nel palmo terra. E la voce sarà, terra mia, madre mia, chiudi gli occhi e non andar via. Lascia il vento ti asciughi il dolore delle lacrime e poi nelle mani noi porteremo, sai, semi nuovi riceverai, cresceranno in te. Speranza e il coraggio di amare di più. Terra mia. dolore delle lacrime e poi tu perdonerai, tu rinascerai.
Maura Susana, quand le soleil viendra réchauffer ton visage, plus rien ne pourra faire, rien ne pourra faire de mal, plus rien ne pourra être fait de mal, pardon, parce que tout changera un jour, il ne faut pas mourir parce que nous serons beaucoup avec toi à aider la vie à renaître en toi. Et c'est donc une chanson dédiée à l'écologie. Voilà, alors on parlait de réformes, mais il y a eu aussi en Italie, et notamment en Vénétie, on a beaucoup parlé ces derniers temps d'un pseudo-référendum qui a fait grand bruit, donc pas seulement en Vénétie d'ailleurs. Alors la Vénétie, en deux mots, c'est au nord-est de l'Italie, il y a près de 5 millions d'habitants, et c'est une région qui va des Dolomites, donc de la montagne, jusqu'au delta du Po, avec bien entendu des villes comme Belluno, Trevise, Vérone, Padoue, Rovigo, Chioggia, qui en font partie. Dans cette région, il y a un monsieur qui s'appelle Gianluca Busato, qui est un chef d'entreprise, un petit entrepreneur, qui est à la tête d'un petit parti qui s'appelle Veneto Sì, enfin la Vénétie, oui, et il a souhaité mettre en place un référendum pour l'indépendance de la Vénétie et sa séparation de l'Italie. Alors, Busato en est un des points, enfin c'est lui qui détient les finances, pas tout seul d'ailleurs, il a avec d'autres entrepreneurs financé ce mouvement avec le but de payer moins d'impôts, et il parle d'un État central qui vole la Vénétie, qui a été et qui est toujours encore une des régions les plus riches de l'Europe. Alors, comment il est venu à proposer ce type de référendum ou de plébiscite? C'est un peu, disons, curieux, parce que si on s'en tient aux dernières élections régionales officielles de 2013, les partis favorables à l'indépendance de la Vénétie, en fait, n'ont pas eu un très grand succès, puisqu'ils n'ont pas eu plus de 60 000 voix, guère plus en tous les cas. Mais ça n'est pas découragé ce monsieur Busato, qui a été inspiré, voire boosté par la demande d'indépendance dont on entend un petit peu parler, de deux régions ou de deux pays. C'est celle de l'Écosse par rapport au Royaume-Uni et celle de la Catalogne par rapport à l'Espagne. Alors en effet, l'Écosse devrait voter le 18 septembre pour son indépendance par rapport au Royaume-Uni, alors que la Catalogne, une des régions d'Espagne, aimerait qu'il y ait un vote sur son indépendance par rapport à l'État espagnol, sans doute en novembre. Donc ces phénomènes ont motivé notre ami Busato, qui a aussi été entraîné dans ce projet par évidemment la crise et l'augmentation du chômage des jeunes en Vénétie comme dans le reste de l'Italie, et ce qui a marqué particulièrement cette région qui a été plus habitué à des taux de chômage bas et qui grimpent maintenant. Alors il affirme comme d'autres que on paye, c'est-à-dire la Vénétie, 71 milliards d'impôts à Rome, l'État central romain, mais que ce qu'on a en retour comme investissement ou aide nous laisse un déficit pour la Vénétie de 20 milliards d'euros, et il trouve pas ça normal, et il trouve que la Vénétie ne peut pas accepter cette situation. Alors, comment il s'est organisé? Alors, via un comité qu'il a appelé plébiscite, son idée a été d'organiser par téléphone un peu, mais surtout par Internet, organiser une sorte de référendum, de pseudo-référendum, on va dire, pour une Vénétie indépendante. Et puis, pour éviter toute fraude, il fallait entrer son numéro d'électeur. Et bien sûr, un rapprochement était censé être fait avec les listes électorales. Alors, cela a marché bien au-delà de ses espoirs, puisqu'encore une fois on disait, 60 000 votants de façon officielle pour l'indépendance de la Vénétie lors des dernières élections, enfin les partis de pour l'indépendance de la Vénétie n'avaient eu que 60 000 votants pour eux lors des dernières élections, alors que là, il y a eu 2 360 000 électeurs qui ont participé au vote sur 3,8 millions possibles. Ce qui est quand même assez extraordinaire, puisqu'il y a eu aussi, on peut dire, donc 2,3 millions pour 3,8 millions possibles, et il y a eu un pourcentage de 75% du corps électoral, un tout petit peu moins de 75% du corps électoral. Ça ferait rêver les organisateurs des élections en tout genre de partout en ce moment. Et 89% des électeurs qui se sont exprimés ont dit oui à une éventuelle indépendance, ce qui veut dire que 11% ont voté contre le détachement de la Vénétie. Alors encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'officiel, c'est une sorte de référendum sondage, je ne sais pas comment on peut l'appeler, virtuel. Alors quelles conséquences ou quel écho ont eu quand même, parce que cela fait quand même réfléchir, des montants de ce type, enfin des participations de ce type font réfléchir. Alors, quels échos a eu ? Alors, il y a eu des échos à l'étranger d'ailleurs, parce que la Russie s'en est vite servie comme justificatif de son annexion, comme une justification de son annexion de la Crimée. Mais les conséquences immédiates, quelles peuvent-elles être ? Pour au niveau de l'indépendance elle-même, c'est évidemment pas avec ce genre de référendum, rituel que la Vénétie va devenir indépendante, parce qu'il faut rappeler que ce référendum n'a rien du tout d'institutionnel et que l'article 5 de la Constitution italienne interdit toute sécession de toute manière, puisque la République est une et indivisible. Donc à ce niveau-là, pas d'indépendance évidemment de la Vénétie tout de suite. Il faut aussi reconnaître que s'il y a eu beaucoup de votants, par contre, il y a eu très peu de gens qui ont, dans la rue, ont manifesté à l'annonce officielle des résultats. Il y avait quelques personnes avec des drapeaux avec le lion de Saint-Marc dessus, mais il n'y a pas eu, on peut dire, foule qui était là à attendre l'annonce officielle de ces résultats. Donc il s'est rapproché quand même du nombre des votants qui lui était important, et donc on ne peut pas dire que si le pseudo-référendum a été un succès sur Internet, on ne peut pas dire qu'il peut être considéré quand même comme un succès complet, puisque peu de gens étaient dans la rue pour le signifier. Après, ce qui peut se passer, parce qu'il y a eu quand même, suite à ces résultats, beaucoup de discussions, ce qui peut se passer, c'est la demande de l'organisation d'un référendum officiel. Et Luca Zaia, qui est le gouverneur de la région Vénétie, qui est un d'inspiration de sensibilité Luc du Nord, dont a fait partie un court instant d'ailleurs Buzzato, dont on parlait tout à l'heure. Et Luca Zaia, qui lui est partisan de cette sécession, aimerait bien faire organiser un référendum officiel, tout en sachant très bien qu'il devra passer par le conseil de sa région pour pouvoir l'organiser, et tous en sachant très bien que si le résultat de ce référendum devait proclamer une indépendance de la Vénétie, le gouvernement italien, lui, le déclarerait évidemment inconstitutionnel, et Luca Zaia n'en serait peut-être pas, peut-être qu'il ferait appel, enfin c'est ce qu'il promet en tous les cas. Mais donc, pour le moment, cela fait parler, et on pourrait peut-être avoir un jour un référendum officiel, mais rien n'est sûr pour autant. Alors les politiques en Vénétie ou en Italie en général sont très partagées, très partagées en Vénétie, parce qu'ailleurs le reste des politiques italiennes sont plutôt contre. Mais par contre, ce qui les fait peut-être les partisans parler d'une indépendance de la Vénétie, c'est plutôt parce qu'ils attendent de l'État italien, disons, un État plus efficace. Enfin, l'affaire est à suivre. On va voir si Buzzato, Zaia et les autres partisans arrivent à leur fin et à calquer, comme ils le souhaitent, cette indépendance sur la République de Venise, qui était une république qui avait été une grande puissance économique et culturelle et qui s'était éteinte le 12 mai 1797 exactement, lorsque le Grand Conseil de cette République avait accepté, c'est une sorte de capitulation, avait accepté les conditions imposées par Napoléon Bonaparte au terme de sa campagne d'Italie. Et le dernier chef de cet exécutif de la République de Venise avait été Ludovico Manin, dont on reparlera tout à l'heure après une pause musicale, puisqu'on évoquera brièvement ce qu'était cette République de Venise. Alors on va écouter un morceau en langue vénitienne par nos amis de Calicanto, un groupe très connu qui est venu plusieurs fois ici, même dans les studios de Couleur FM. Et puis cette chanson va immédiatement, je pense, parler à nos auditeurs, tout simplement parce que vous allez remarquer quelque chose. Je vous dis rien pour l'instant, mais ceux qui n'auront pas trouvé pendant le morceau, eh ben on donnera la réponse. Donc on va écouter Canzon Roversa, c'est une sorte de chanson à l'envers, par le groupe Calicanto, qui avait publié un album en 1997 pour commémorer le bicentenaire de la chute de la République de Venise.
Parola de verdad. vive, parola deve andare ognuno che scrive.
Vous êtes bien sur 97.1 et vous n'êtes pas au début de l'émission, mais bien dans le courant de l'émission à l'écoute de l'Italie. Et vous avez reconnu évidemment la chanson qui nous a inspiré notre indicatif. Donc cette chanson interprétée par le groupe Calicanto. Alors c'est une chanson qu'il est inutile en fait de traduire, elle est en vénitien. Mais pourquoi ? Parce que c'est un texte qui est en fait inspiré d'un, ce qu'on appelle un scholilingua, c'est-à-dire un vire-langue. C'est un peu les chaussettes de l'archiduchesse, sont-elles sèches? Et c'est un peu le même style. Donc, ce sont que des jeux de mots avec des consonnes ou des voyelles qui peuvent s'entrecroiser. Et la traduction n'a pas, en fait, vraiment d'intérêt. Même si le texte original est très intéressant et parle de la lagune de Venise, de tous les fruits de mer qu'on peut y trouver, des époques différentes de la chanson, etc., etc. Voilà, donc le groupe Calicanto. Alors, je vous disais que l'album avait été créé, avait été enregistré en 1997 pour le bicentenaire de la chute de la République de Venise. Alors, la République de Venise, en fait, c'est un État qui s'est constitué au fil du temps. On ne va pas refaire toute l'histoire, ça nous porterait à plusieurs heures d'émission. Mais c'est, disons, une... Alors, c'était quoi au départ ? C'était Venise même était un tout petit, un ensemble de petits villages qui étaient sur une lagune marécageuse. Et puis, petit à petit, la République elle-même s'est développée. C'était surtout un territoire maritime et puis quelques territoires de terre ferme. Et donc, la cité de Venise s'est développée par l'annexion de comptoirs commerciaux le long des côtes de la mer Adriatique, en Méditerranée orientale. Et elle est devenue donc une des principales puissances économiques européennes. Voilà, alors au début, elle était dépendait de l'Empire byzantin, qu'elle a ensuite contrôlé. Et son premier doge, qui est une sorte de duc, a été Paoluccio Anafesto, qui était donc le premier à diriger cette République de Venise. Une République qui, tout au long de son fonctionnement, a été à peu près, on va dire, sinon similaire à notre forme de démocratie, mais assez proche. Et si vous vous baladez en Vénétie, vous avez sans doute souvent vu le lion ailé de Saint-Marc comme emblème dans plusieurs villes, que ce soit Chioggia, Vérone, Venise évidemment, Vicenza. Et ce lion rappelle cette République de Venise. Et d'ailleurs, la plupart sont restés en place, ce qui veut dire que même quand elle a été contestée, ils n'ont jamais été détruits, ce qui pourrait vouloir dire qu'elle a été, dans l'ensemble, relativement acceptée. Enfin, ça, c'est une interprétation. Alors, on parlait de l'époque du départ de cette République de Venise. Au Moyen Âge, on peut dire qu'elle s'est appuyée sur ses relations commerciales avec Constantinople, puisque au Xe siècle, après cet échange commercial, les Vénitiens ont aussi assuré le contrôle de la côte dalmate. Ils avaient éliminé tout ce qui entravait leur commerce, en fait, et notamment des pirates, par exemple des pirates croates. Et Venise était une sorte de ville-État à l'époque, puisque tous les grands ports d'Italie, comme Amalfi, Pise, Gênes et donc Venise, avaient un pouvoir qui était dû à leur proximité maritime. C'est pour ça qu'on parle de ville-État. Donc commerce, beaucoup de commerce et beaucoup de relations commerciales avec Constantinople. Après, ce qui a fait aussi, dans ces périodes-là, la puissance de Venise, ça a été la quatrième croisade, puisque les croisés ont aidé Venise à conquérir sur la route de l'Orient plusieurs territoires, on va dire, notamment Zara, les îles Ioniennes et bien d'autres. Alors cet esprit d'entreprise de Venise, on l'a trouvé évidemment chez Marco Polo au XIIIe siècle, par exemple. Alors, on disait qu'elle avait surtout beaucoup de possessions maritimes et quelques territoires sur la terre ferme. Enfin, sur la terre ferme, à cette époque-là, c'était assez réduit, puisqu'elle avait Vicenza, Verona, Padova, Padoue, et puis les côtes du Frioul. Après, un peu plus tard, si on arrive quasi au XVe siècle, XIVe siècle, on est rentré dans la période des guerres et des conflits, notamment entre les Vénitiens et les Génois, qui étaient deux républiques, qui se livrèrent des combats assez féroces. La République de Venise s'en est bien sortie, et puis notamment la guerre de Chioggia consacra la domination de Venise sur Gênes. La République, dans cette période, dominait encore l'économie du monde, on peut dire, et puis la majorité de la côte adriatique, et elle faisait, dans son commerce, elle achetait notamment beaucoup de poivre et d'épices du Levant, et qu'elle revendait d'ailleurs, et les marchands vénitiens en étaient du coup les principaux vendeurs actifs sur les places commerciales, que ce soit à Constantinople, que ce soit en Crète, que ce soit en Arménie, en Afrique du Nord, et dans bien d'autres régions. Et puis un peu plus tard, il y a eu les fameuses guerres d'Italie qui commençaient, et il y avait toujours des affrontements entre le duché de Milan, le royaume de Naples, la République de Florence, etc., etc. Et tout ça fit que, pour un peu contrarier cette puissance vénitienne, il y a eu une alliance qui s'est formée contre elle en 1508, c'était la Ligue de Cambrai. Alors elle comportait des ennemis de la République de Venise, c'est-à-dire le pape, l'empereur, les rois de France, d'Angleterre, le roi d'Espagne, etc., etc. Et cette Ligue de Cambrai avait affronté durement la République de Venise. Ils avaient même saccagé plusieurs villes de son empire, et ils avaient triomphé de Venise. Mais malgré cette défaite, la République de Venise en est quand même sortie, et l'État a quand même été sauvé de par le fait que la cité elle-même n'avait pas pu être prise. Voilà, alors du coup, les alliances plus tard, comme toujours dans ce genre de guerre, se renversèrent, et après les Vénitiens se mirent à soutenir le roi de France, et ils s'engageaient, le roi de France qui s'engageait contre les Milanais, et le soutien des Vénitiens s'était avéré important, notamment dans la victoire de Marignan en 1515, comme tout le monde sait. Alors donc, Venise encore puissante malgré cette défaite contre la Ligue de Cambrai. Et puis après, on arrive au 16e, et là, par contre, les choses commencèrent petit à petit à être moins florissantes et à se gâter. Tout simplement parce que les lieux d'empire maritime, on va dire, enfin les continents et les mers n'étaient plus les mêmes comme objectif, et c'est là où après les routes commerciales se changèrent et ont parti sur d'autres continents, et puisque les anciennes routes n'étaient plus privilégiées, et on était parti l'Afrique, l'Atlantique, puisque on arrivait là à l'époque où Christophe Colomb était parti sur l'Amérique. Donc tout ça, la modification des routes commerciales a commencé à faire baisser l'importance et la brillance de Venise. Ensuite, il y a eu les grosses batailles avec les États voisins qui ont affaibli Venise, même si elle a remporté quelques succès. Et il y a eu notamment les luttes contre l'Empire ottoman qui furent importantes, et petit à petit les Turcs avaient regagné des comptoirs vénitiens sur les routes du Levant. Et il y a eu aussi une très très grande bataille en 1571. La moitié des navires de la flotte chrétienne qui avaient défié les Ottomans étaient des navires vénitiens, et il y a eu donc cette bataille de Lépante en 1571, où Venise, là par contre, a gagné la bataille, mais plus tard, elle a quand même continué à perdre un peu de sa brillance, et elle a dû abandonner successivement des territoires, par exemple Chypre en 1669, et d'autres un peu plus tard. Et ce qui tout cela a abouti à des alliances quasi obligatoires, et par exemple à l'époque de l'affrontement contre les Turcs, Venise avait dû s'allier à l'Autriche, et puis d'autres faits qui finalement arrivèrent à cette fameuse invasion des Français de Napoléon Bonaparte, qui mit fin à la République de Venise et à son rayonnement. Alors, inutile de dire que Napoléon Bonaparte n'a pas toujours une audience favorable, on va dire, même encore maintenant dans ces régions, même si par contre la population juive de Venise, elle lui avait plutôt été reconnaissante, parce que il avait supprimé les barrières du ghetto de Venise. Certains disaient que les Français avaient aussi amené de nouvelles idées intellectuelles qui avaient été relativement bien perçues. Là encore, c'est chacun a son avis. Alors il y a eu une autre petite république vénitienne, mais de façon très éphémère, dans les années 1849-50, ou 48, puis 49 peut-être. Chute de cette république en 1797. Mais c'est le côté brillant, c'est évidemment que les Zaya et Busato, dont on parlait tout à l'heure, ont retenu et voudraient revoir implanté, tout en disant que cette idée de république est toujours restée dans l'esprit des Vénitiens par rapport à l'État centralisé de Rome, enfin l'État central de Rome. À suivre, mais on peut peut-être douter qu'ils arrivent à leur fin, peut-être qu'il y a une forme peut-être d'autonomie, qui sait, enfin bref. Alors on va écouter un deuxième morceau du disque dont on parlait tout à l'heure, qui avait été créé par Calicanto pour le bicentenaire de la chute de la République, et ce titre, c'est tout simplement Lepanto, du nom de la bataille dont on a parlé tout à l'heure contre l'Empire ottoman.
Hissa, sempre più corto. So straco morto.
Voilà, alors c'était également chanté en vénitien. Maudite, maudit navire, tu es ma condamnation. Maudit soit mon capitaine. Maudit les esclaves. Enfin, maudit tes morts et qui tu sers. Maudit Turc qui m'attend. Pourquoi maudite victoire, par contre, oui, puisque la bataille de Lépanto a été gagnée. Maudit silence, nous sommes tous pris, on se moque tous de nous, et que la, enfin, la vie est sur ces navires est une moquerie, etc., etc. C'est-à-dire, bon, être embarqué dans un combat où disent-ils à un moment de la chanson, pourquoi les esclaves doivent-ils libérer les saints? Voilà donc un morceau qui évoque la bataille de Lépanto. Alors, autre musique, autre chant, il y a un auteur-compositeur italien, parmi les plus grands, peut-être le plus grand, certains diront, qui était Fabrizio De André, qui était né en 40 et qui est décédé en 1940 et qui est décédé en 1999. Et on a parlé tout à l'heure de la République de Venise et de ses luttes historiques avec celle de Gênes. Et bien Fabrizio De André, lui, était génois. Et ces derniers jours est sorti en Italie un bouquin qui a été réalisé entièrement par la Fondation Fabrizio De André et qui est dédié aux 30 ans d'un de ses albums. C'est quand même assez rare de commémorer un album. Et c'était l'album qui s'appelait Creusa de Ma, qu'il avait réalisé avec Mauro Pagani, qui est toujours vivant, lui, et qui avait réenregistré d'ailleurs cet album une vingtaine d'années après. Alors, cet album, pourquoi on l'a évoqué et un bouquin est sorti sur lui, c'est parce que il avait marqué toute une époque et il a eu beaucoup de succès en Italie puisqu'il avait même été classé il a été classé dans tous les premiers rangs des 100 plus beaux albums de tous les temps en Italie d'auteurs, compositeurs, interprètes et qu'il y a même des compositeurs étrangers comme David Byrne qui l'ont considéré comme un des plus beaux albums, un des 10 d'ailleurs meilleurs albums mondiaux, dit-il, des années 80. Alors cet album est chanté en langue ligure, dans la langue très proche de la République de Gênes d'ailleurs. C'est la langue de la mer, une des plus utilisées, une langue qui était des plus utilisées dans les échanges commerciaux du bassin méditerranéen jusqu'au XVIIe siècle. Et c'était une langue qui s'était enrichie d'autres langues avec des termes grecs, arabes, espagnol, français. Alors, le thème de cet album, bon, c'était la mer, le voyage, les souffrances. C'est un album qui a différents sons, des sons typiques de la Méditerranée, des sons d'ambiance, puisque dans certains morceaux de l'album, on entend même des vendeurs de poissons. Alors, on va écouter, pour rendre hommage à Fabrizio De André, cet enregistrement de 1984, Creusa de Ma.
ombre de muri, muri de maine. Donde ne veni, dove le cane? Densi tu du vali, a se mostrani. E a neta na punto, cote lo agu. E a monta la, se o gheresto dio. O diavolo in se, o segue effetto nio. Ne shurtimo da uma, pesci guaio se d'audria. A fontana di cumbi, tacca de pria.
E andare, e andare.
Intacca de pria chi che saia, intacca d'udria cu nulla mai na. Gente deligan facce de mandila, vuoi che du lo assu preferisci la. Figge de famiglia o du de bun, che tipo a mia le senza algum dun.
E anda.
Se vê, consegue daia. Você dá bem, você dá manjar. Fritia de pinhe, janco de portofim. Cervele de pé, tu mesmo vim. Lasagne da filha, ai quatro tuque. Patigo e negro doce, de lebre de cuque.
E anda, meu, e anda.
A barca do vinho e naveguemos xiscante, emigrante do rio, cuitão inteiro. Fim com a tincrechada, poeiro recante, redigané, venia de fite. Bacanda corda, marcela égua de sangue, ne liga ne porta, antena cruza de mar.
E anda, meu, e anda, meu, e anda.
Voilà, alors ce titre évoque en fait un petit chemin avec parfois des petits escaliers. C'est des petits chemins qui délimitaient des propriétés privées en Ligurie et qui portent chaque fois à la mer. Donc, album de 1984 de Fabrizio De André. Alors maintenant, on va terminer cette émission sur Couleur FM par une nouvelle un tout petit peu triste, celle de la disparition de Francesco Di Giacomo, qui était un grand chanteur italien et qui est décédé à 67 ans d'un accident de la route. Sans doute a-t-il pris un malaise au volant d'ailleurs, d'après les premières constatations. Alors c'était quelqu'un de très costaud, il avait une stature qu'on était obligé de remarquer parce qu'il avait une longue barbe et il est toujours avec des vêtements très marquants, voyants par contre. Et il était donc la voix du Banco del Mutuo Soccorso, qui était un des grands groupes italiens qui existent toujours d'ailleurs, et qui était avec PFM et un autre groupe qui s'appelle Area, qui était sans doute les groupes les plus importants de l'école du rock progressif italien il y a une trentaine d'années, et qui continue pour certains à jouer. Donc j'aurais pas voulu terminer cette émission sans rendre hommage à Francesco et à sa voix. Et on va finir donc par un morceau extrait de l'album Darwin que Banco Mutuo Soccorso avait enregistré en 1975. Voilà, bien, au revoir à tous et à une prochaine émission sur Couleur FM.
À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'association INIS Italie Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.